French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Il me disait, il m'a dit, est-ce que dans 3 semaines, vous pouvez être là? Je dis, bah, si au niveau de l'immigration, enfin moi je connais pas l'immigration aux Seychelles, quoi. Il me dit, non, les papiers seront bons, il y a juste l'ambassade qui doit signer un papier, et puis après, vous venez et... il n'y a pas de problème. Je dis bon, ok, d'accord. Donc je descends, je fais ben. Il me dit, est-ce que vous pouvez me donner votre réponse dans les 24 heures? Je descends, je dis à mon père, bon, ben, je crois en fait que ça, c'est vraiment ce qui se passe là. Je pars aux Seychelles dans 3 semaines.
Dans le premier épisode, qui est sorti ce matin, Elsa nous racontait comment elle en arrivait à cette scène, justement, de se dire « Attends, je pars aux Seychelles ou pas ?» Si vous ne l'avez pas encore écouté, ça vous permettra de suivre un peu mieux son histoire. Je vous invite à mettre cet épisode en pause et à aller écouter l'épisode 1, qui est lui aussi sorti ce matin. Et puis, bah, sinon, place à la suite de l'histoire d'Elsa, une histoire qui n'a pas fini de vous faire voyager. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Bonne écoute.
Il me regarde, il fait quoi? Il dit, c'était pas une blague. Je fais non, c'était pas une blague, papa. J'ai eu un entretien et en fait, ils ont besoin de moi tout de suite. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que bon, moi, les Seychelles, c'est l'image
sable blanc,
voilà. C'est lune de miel, etc. Mais je connais rien des Seychelles en dehors de ça.
Ouais.
Donc il me dit, écoute, t'as donné 24 heures. Déjà, regarde en dehors de ces images-là qu'on a dans nos têtes. Regarde un peu sur internet, etc. Machin. Je regarde, je me dis, bon. Écoute, t'as pas d'autre boulot, ça te fera une expérience. Il y a pire comme endroit que faire une expérience aux Seychelles quand même.
Et c'était pour combien de temps?
Je crois que c'est un contrat de 2 ans.
D'accord.
Ou un an renouvelable, un an.
Ouais.
2 ans, je pense. Je me dis, bon, voilà, je pars pour 2 ans. Et après, on verra.
Ouais.
Mais j'ai toujours quand même, dans ma tête, je suis toujours pas en école d'immersion en pays anglophone.
Ouais.
Enfin, anglo-saxon, parce qu'ils sont anglophones quand même aux Seychelles. Et je me dis, bon, mais ça, j'ai toujours en tête, je veux faire ça, c'est mon objectif quand même. Mais ça sera pour plus tard.
Mmh.
Là, je veux apprendre mon métier un peu plus. Et donc, effectivement, je fais mes bagages. Alors, c'était facile puisque finalement, j'avais pas d'appart à vider quand c'était déjà fait.
Tout était déjà emballé.
Par contre, acheter des vêtements pour les Seychelles, quoi, parce que moi, j'étais censée partir quand même aux États-Unis où il y a quand même des saisons, etc. Mmh. Donc, heureusement, c'était encore l'été, entre guillemets. Enfin, c'est septembre, donc je suis vite fait aller acheter des maillots de bain quand même. et me voilà partie finalement pour les Seychelles.
Trop bien, d'accord.
À l'école française des Seychelles.
Et donc c'était pour faire quoi alors?
Enseignante, donc professeure des écoles en classe de CM2.
D'accord, donc toujours CM2, c'est la classe que t'aimes bien.
Voilà, donc justement je pensais ça qui m'a fait encore moins peur. C'est que je me suis dit, ben, j'ai déjà passé un an aux États-Unis en CM2. La majorité de mes stages quand même c'était du CM1, CM2. Je me dis, je connais les programmes, je connais le fonctionnement, je connais les attentes. Ça fait partie de l'éducation nationale, l'école française des Seychelles, donc c'est les mêmes programmes qu'en France.
Donc tu pars pas en terre inconnue, quoi.
Non. Enfin, c'était pas comme si on m'avait dit, bon, bah, t'as une classe de petite section. Là, j'aurais un peu plus quand même bossé mon sujet avant, mais là, je me suis dit, non, mais...
Ça va le faire.
Ça va le faire.
Et alors, comment ça se passe ton arrivée là-bas? Ça ressemble à quoi, les Seychelles, du coup, hors de la carte postale?
Alors, c'est vraiment une carte postale. il fait hyper chaud. Moi, je suis arrivée, je me souviens, je suis sortie de l'avion. Pourtant, il était 10h du soir. J'avais les gouttes qui dégoulinaient. Humide, enfin, vraiment. Mais c'est vraiment une carte postale. Après, effectivement, comme dans tous les pays, il y a des choses qui sont améliorées, on va dire. Mais oui, c'est vraiment, on finissait l'école, on allait sur les plages de sable blanc, on passait le reste de notre après-midi. Enfin voilà, moi pendant... Ouais. Alors je suis rentrée les Noëls et les étés en France quand même. Parce qu'il y a... Par contre, il y avait, je sais que ça se développe encore, ça se développe beaucoup plus, mais il y avait peu de culture, on va dire, et de... d'activités à faire en dehors de la plage et des randonnées.
D'accord.
Donc forcément, ce côté-là me manquait beaucoup. Donc je suis rentrée à Noël et pendant les étés. Mm-hmm. Mais sinon, pendant les vacances qu'on a, c'était plage tous les jours. Enfin moi, j'avais la plage en bas de chez moi. Enfin,
ouais, trop bien.
Donc ça, c'était top. Enfin, ces deux années vraiment... Alors, dans ces deux années, il y avait Covid aussi. Mais, mais c'était top. Et puis moi, mes élèves... J'adorais parce qu'en fait, c'est des élèves qui sont trilingues. Parce que les Seychelles, c'est trilingue. C'est français, d'accord, anglais et créole.
Ok.
C'est juste super. Enfin, ouais. Ils t'apprennent stimulant, plein de choses. Ah oui, et puis moi, j'adorais apprendre. Moi, une fois, il y a un élève qui arrive et qui me dit « Maîtresse, maîtresse, dans mon jardin, il y avait plein de courpas. »
C'est un mot créole, du coup.
Oui, c'est un mot créole. Je dis « Quoi ? Un courpas ?» Et là, il me dit « Attends, je vais trouver. » Et là, il va dans notre bibliothèque de classe. Ouais. Et en fait, c'est un escargot. Les courpas, ce sont des escargots.
C'est génial.
Et je trouvais ça génial. Enfin, ouais. C'était vraiment. Et puis, enfin, les Seychellois sont tout le temps quasiment de bonne humeur. Enfin, c'est vraiment.
C'est vraiment chouette.
Ouais. C'était vraiment deux belles années au niveau des Seychelles. Ouais. Après, moi, je me suis rendu compte aussi de plusieurs choses là-bas. C'est que j'avais besoin des saisons. Ouais. Moi, j'adore l'hiver, j'adore la neige.
Ouais.
Et les saisons me manquaient. Enfin, au niveau de
ça allait parce que tu savais que c'était deux ans, mais...
Exactement. Ouais. Mais après, au niveau du rythme, j'avais besoin des saisons. Mmh. Et aussi, c'est petit, les Seychelles. Les Seychelles, c'est 115 îles.
D'accord.
Qui s'étendent presque quasiment jusqu'au nord de Madagascar. Donc, c'est très, très étendu. Mais la majorité ne sont pas habitées.
OK.
Ou ce sont des hôtels, enfin, un hôtel sur une île. Mais il y a trois îles principales. Donc, il y a Mahé. Mmh. C'est là où j'étais, puisque c'est là où il y a la majorité des écoles, etc. Et globalement, Mahé, du nord au sud, on met une heure, et de l'est à l'ouest, on met 20 minutes.
Ah oui, d'accord. Okay.
Voilà. Okay. Et après, il y a Pralin, où il y a aussi tout un système de bus, de voitures, etc., qui est plus petit. Et il y a la Digue, qui était mon île préférée, où maintenant, il y a quelques voitures, mais avant, c'était vélo... voiture de golf, etc. Mais pas de voiture, donc qui est beaucoup plus petite. Mm-hmm. Et après, c'est vraiment des îles où il y a un hôtel, deux hôtels maximum, mm-hmm, etc. D'accord. Donc c'est quand même petit. Moi, partout où j'allais, j'avais des élèves qui me reconnaissaient. Quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont rendu visite. Ils m'ont dit, mais t'es la star des Seychelles ou ça se passe comment? Enfin, on allait à la plage, bonjour maîtresse Elsa. On allait au supermarché, bonjour maîtresse Elsa. J'allais au petit marché, j'avais mon vendeur où j'allais tout le temps acheter mes avocats, mes fruits de la passion, etc. Et j'arrivais, c'était bonjour Elsa. Mes amis, ça, mais...
Tu connais tout le monde,
c'est pas normal. Comment ça se fait? Ben oui, mais c'est tout petit, donc forcément...
Une vie de village presque.
Ah oui, c'est ça, c'est ça.
Donc, tu te fais deux ans là-bas. Tu arrives à tisser des liens aussi au-delà, je dirais, de l'école. Est-ce que c'est avec des locaux? Est-ce que c'est avec les enseignants? Comment est-ce que tu arrives finalement à avoir une vie privée en fait, de tout ça?
Alors déjà, les Seychelles, au niveau des loyers, c'est très cher. Donc moi, j'étais en colocation avec des collègues à moi.
Ce qui est un peu quitte ou double, j'imagine.
Oui, totalement. Mais c'était un énorme appartement. Donc on avait quand même
nos pas espaces.
Non, pas du tout. Par contre, c'est vrai que j'ai tissé très peu de liens, voire quasiment aucun lien avec des locaux. C'est surtout les francophones.
D'accord.
Ou les collègues, effectivement, mais beaucoup de francophones, de Belges, de Français, et même des Brésiliens qui parlent français, etc. Donc, c'est surtout ça, mon groupe d'amis, finalement, là-bas. Et c'est forcément beaucoup d'expats, donc des gens qui vont, qui viennent. Donc, on est là une année, puis on n'est pas là la suivante. À part quelques-uns, évidemment, qui sont toujours. Mais c'est plus difficile.
Ouais.
C'est plus difficile. Et puis, Et j'en ai parlé avec des locaux une fois, parce que je dis, mais on s'entend bien, comment on n'arrive pas à créer... Mais on le sait, vous, les expats, vous arrivez, vous êtes là un an, deux ans, on s'attache, on devient hyper amis, puis vous partez, et nous, ça nous fait mal à chaque fois, en fait.
Ah ouais.
Et donc, j'ai compris. Et en fait, je me suis dit, OK, Ben, c'est des personnes où je suis sûre que je retourne demain aux Seychelles. On est hyper contents de passer un repas ensemble, ils m'accueillent, etc. Mais je comprends cette sensation de ben, ils vont, ils viennent. Ils me disaient, mais il y a des expats avec qui ils sont amis, mais ces expats, ça fait 5-6 ans. Voilà, ils sont installés là-bas, donc c'est différent.
Mmh.
Mais c'est pour ça, effectivement, que la majorité effectivement, de mon groupe d'amis, c'était des expats.
Ouais, d'accord.
Mais,
okay.
Ouais. Puis moi, je savais que j'étais là-bas pour 2 ans aussi. Donc c'est...
Ouais, c'est ça. Quand tu sais que tu te projettes pas pour la vie entière. Quoi.
Voilà, donc c'était ça. Et puis après, puis Covid est arrivé.
Covid est arrivé au bout de combien de temps, du coup ?
Alors, quand je te disais que je recevais les annonces à chaque fois à des moments particuliers, alors nous, on en entend parler, je dirais en janvier-février.
D'accord.
J'ai même une copine, moi, qui est venue en février. Donc,
février 2020, du coup.
2020, oui.
D'accord.
Et en fait, elle repart. Et le week-end suivant, avec une autre copine qui habitait aux Seychelles, on va dans un hôtel sur une autre île, parce qu'on a une offre et tout, machin. On se dit, ah, on va se détendre et tout. Et en fait, on est sur les transats et tout le monde nous dit, écoutez la radio, allez sur la radio sur vos téléphones. Et en fait, c'est le président des Seychelles qui annonçait qu'il y avait les premiers cas de Covid et que donc tout le monde avait 2 semaines pour partir des Seychelles s'il devait partir.
Ah ouais.
Et donc on se dit, ok. Et en fait, il n'y a pas eu beaucoup de cas aux Seychelles au début. Je crois qu'il y a eu 7 cas. Et c'était des touristes qui revenaient. Et ils ont été isolés tout de suite, en fait. Donc, et après, on a fermé les frontières. Fermeture totale des frontières.
Donc plus un avion qui part.
Plus un avion, plus un bateau. Plus rien à partir de ces 2 semaines. Sauf que nous, aux Seychelles, on ne produit pas grand-chose au niveau nourriture. Donc on dépend de l'importation. Donc, on attendait tous avec impatience que les bateaux et les autorisations pour venir nous amener notre nourriture, notre papier toilette aussi, clairement. Mais voilà, on était en confinement total. On avait interdiction de sortir de chez soi, sauf pour aller aux courses, ou etc. Mais il fallait passer par le commissariat pour avoir l'autorisation. Sauf que moi, le commissariat est beaucoup plus au sud que là où je vais faire mes courses. Donc, on n'est même pas allé au commissariat, sincèrement. Et on s'est fait arrêter sur le côté. Donc moi, j'étais avec 2 de mes colocs. On était allés... parce qu'à l'époque, tous les loyers se payent en cash. Donc on devait aller à la banque, les retirer, pour payer notre loyer quand même. Par électricité, ça se payait qu'en personne à l'époque. Maintenant, ils ont changé tout ça. Ils se sont rendus compte qu'il fallait peut-être faire du paiement en ligne.
Ouais.
Mais du coup, on s'est dit, faut qu'on fasse une expédition. Surtout qu'en plus, on ne pouvait pas boire l'eau non filtrée. Donc nous, on achetait les bonbons d'eau. Donc on était à la fin de nos bonbons d'eau. Donc au bout de 2-3 semaines, on s'est dit, on y va. Si on se fait arrêter sur le côté, on se fait arrêter. Donc, on fait notre expédition et effectivement, forcément, on se fait arrêter sur le côté. On a eu un petit rappel à l'ordre parce que sinon, en fait, les amendes étaient beaucoup plus chères pour les non-séchellois.
D'accord.
Mais très, très chères. De l'ordre de milliers d'euros, en fait. Donc, on était là, vous voyez, on a les bonbons d'eau, on allait payer notre électricité, le commissariat, il est à l'autre bout de l'île. Enfin, Donc, ils ont été tolérants. Ils nous ont dit, OK, mais on vous revoit pas faire ça. Donc, on est vraiment restés chez nous et à la plage, puisque c'était juste en bas, quoi. Mais c'était assez, assez difficile parce que, en plus, nous, on devait continuer à faire école en ligne.
Ouais.
Et Internet aux Seychelles, c'est pas le meilleur des réseaux. C'est très compliqué. Tous les parents n'ont pas Internet parce que ça coûte très cher. Donc, c'était assez compliqué de garder ce lien avec les élèves, et de se dire, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et en avril ou début mai, les frontières n'ont pas réouvert encore. Mais par contre, on a le droit de revivre normalement aux Seychelles. Mais quand je dis normalement, c'est totalement normalement. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de... C'est-à-dire que moi, mes élèves leur faisaient laver les mains 46 fois par jour et je devais être la seule, quoi. Enfin, vraiment... Mais on reprend une vie classique. Sans masque.
Maintenant, si c'est si petit et que toutes les frontières sont fermées.
Et les cas étaient.
Il n'y en a plus, quoi.
Il n'y en avait plus.
Ouais.
Jusqu'au jour où, en fait, aux Seychelles, il y a la première industrie aux Seychelles, c'est le thon. Ou d'ailleurs, pour les Français en France, si vous regardez sous vos boîtes de petits navires, souvent, ça vient soit du Portugal, soit des Seychelles.
D'accord.
T'as
l'empreinte carbone du thon, du coup.
Voilà. Totalement. Ouais. Et en fait, ils font des rotations. Pour les marins pêcheurs, en fait, de 10 semaines. Et là, on arrivait à leur 10 semaines. Mais personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer du pays. Donc, comment on fait? En fait, ils ont réussi à avoir l'entreprise qui a été... Parce que Petit Navire n'est... Enfin, c'est une entreprise thaïlandaise maintenant qui a repris tout ça aux Seychelles, a réussi à avoir une dérogation pour faire ramener, je crois que c'est une centaine de pêcheurs de Sénégal et Côte d'Ivoire dans un avion, avec garantie qu'ils avaient été en quarantaine juste avant, etc. Donc ils arrivent, il y en a fin juin, ils vont sur les bateaux, les autres s'en vont, c'était des Espagnols et des Français, ceux d'avant, donc ils repartent en Espagne, en Europe. Et sauf que, ben, on commence à entendre des bruits comme quoi les bateaux ne sont pas encore partis du port. Ça, c'est étrange. Et en fait, finalement, très petit les Seychelles, donc tout se sait assez vite. Et en fait, il y avait des cas de Covid. Sauf que, ben, personne n'a pris de protection, entre guillemets, puisqu'ils étaient censés avoir fait une quarantaine, tester négatif, etc. Donc, les chauffeurs de bus qui les ont amenés de l'aéroport jusqu'au port, ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient rien. Et donc là, on commence à entendre 10 cas, 15 cas, 20 cas. Ça commence à monter. Mais nos frontières ne sont toujours pas ouvertes. Et là, on se dit, bon, ça va être compliqué de partir, sachant que nous, nos contrats à l'école, ben, se finissaient en juillet, quoi. L'école finissait même pas deux semaines après. Et donc là, ça commence à être un peu la panique. Clairement, c'est est-ce qu'on va pouvoir partir ? Parce que ben, y a rien, quoi. Et on nous dit, on finit par nous dire, écoutez, va y avoir deux vols de rapatriement, entre guillemets, de rapatriement, parce que donc, la compagnie séchelloise d'aviation Air Seychelles doit faire des allers-retours, deux allers-retours à Dubaï récupérer du matériel, parce que voilà, l'importation, etc. Et donc, en fait, comme ils n'ont pas d'avion cargo Air Seychelles, ils vont amener des avions classiques jusqu'à Dubaï avec des personnes des manutentionnaires qui vont ensuite
charger
et enlever plein de sièges à l'arrière. Mais à l'aller, il y aura les sièges. Et donc là, ça commence à discuter. Bah, forcément, à l'école française, on était, je crois, une dizaine à partir cette année-là. Comment on fait qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a encore école, mais en même temps, on ne sait pas quoi faire.
Je ne sais pas si tu auras d'autres options de sortir.
Exactement. Et moi, en ce moment-là, j'ai déjà passé les entretiens pour le Colorado. J'ai déjà eu une offre de poste. Donc je me dis, bah, si j'ai rendez-vous à l'ambassade, si ça se débloque, j'ai besoin d'être en France. Et donc, finalement, le conseil de gestion de l'école, donc finalement, nos employeurs, il y a le président, nous dit, écoutez, moi, je suis en lien avec Air Seychelles. Vous allez avoir deux options. C'est soit le samedi, soit le mardi. Après, ils ne savent pas quand ils vont refaire. Ils ne savent pas quand les frontières vont réouvrir.
Donc c'est un gros risque quand même.
Gros risque. Donc, on demande quand même... On avait la chance dans nos parents d'élèves d'avoir... je crois qu'il était virologue, ceux dans la santé. Et donc, ils nous disent, prenez l'avion. Parce qu'il faut savoir qu'aux Seychelles, pour l'anecdote, au niveau du système de santé, ils avaient besoin de beaucoup plus que ceux dont on avait. Et donc, il n'y avait par exemple que deux respirateurs. Donc, si quelqu'un avait besoin d'un respirateur, donc un réservé au président.
Ah vache.
Voilà.
D'accord.
Donc, c'est un peu. Si vraiment on a Covid, on n'était pas. La plupart d'entre nous, on n'était pas à risque, mais quand même. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait aussi cet aspect-là, quoi. Et donc, on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On y va.
Donc, du coup, tu remballes tout rapidement, quoi?
On a eu le on y va le mercredi, on a acheté les billets le jeudi. Et la moitié d'entre nous, on est parti samedi, l'autre moitié est partie le mardi. Moi, j'étais dans le vol du samedi. Donc oui, j'ai emballé 2 ans de ma vie. J'ai donné la plupart de mes vêtements, honnêtement, à mes collègues qui restaient. J'ai laissé une valise là-bas, j'ai laissé mes draps. Parce que dans ce vol de rapatriement, donc en fait, on faisait Air Seychelles jusqu'à Dubaï. Et ensuite, Dubaï-Paris, c'était avec Emirates. Et donc, sur le vol d'Emirates, on avait le droit uniquement à un bagage en soute, et on nous avait dit un sac à dos.
D'accord.
Mais ça, c'est on nous avait dit, parce qu'on n'a pas eu droit au sac à dos à la fin.
Ah vache.
Et donc, oui, effectivement. Alors, c'était par contre une valise de 32 kilos, pas 23. Donc, j'ai blindé ma valise au niveau poids. Mais voilà, c'est clair qu'en 48 heures, et en plus, il a fallu... On ne pouvait pas acheter notre billet Dubaï-Paris avant d'avoir le billet Seychelles-Dubaï.
D'accord.
Enfin, c'était tout. Donc, on allait entre le magasin d'Air Seychelles, le magasin d'Emirates, on faisait des allers-retours. J'avais deux cartes bleues, j'avais la carte d'une de mes collègues, parce que j'ai pris pour moi, elle et son compagnon. Et en fait, parce que comme ça, on s'est dit, c'est lié, etc. Bon, après, il y a eu plein de péripéties, mais vous avez pas envie d'entendre ça pendant 2 heures. C'est beaucoup trop long, mais... Donc, le samedi, on est à l'aéroport, on a des élèves à nous, des parents qui sont venus nous dire au revoir, etc.
Sympa.
Ils nous ont tous confirmé qu'on faisait... Parce que nous, on culpabilisait parce qu'on n'était pas là les 3 derniers jours.
Ah oui, c'était juste 3 jours.
C'était 3 jours.
Ouais, c'est pas mais genre, c'est quand je suis partie 2 mois avant la fin.
Non. Allez. Mais c'est quand même... Enfin, on n'a pas pu se dire... Enfin, moi, j'ai une maman d'élève le vendredi matin quand j'ai annoncé que je partais. C'était notre dernier jour. Parce que voilà, moi, j'ai pris les billets le jeudi. Mmh. Donc, le vendredi matin, j'annonce aux élèves, finalement, c'est notre dernière journée ensemble. Ben, j'ai une maman, entre-temps, qui elle a appris parce que... Elle a appris par une autre maman, etc. Donc, elle le midi, elle vient, me fait bah, « En fait, on voulait vous offrir un cadeau, mais c'était pour la semaine prochaine, mais comme vous partez... » Donc, les au revoir ont été un peu catastrophiques, rapide, clairement. Ouais. Pas des au revoir... Alors déjà, ça allait être difficile pour moi parce que vraiment, c'était vraiment une classe où je m'étais vraiment attachée. Les parents étaient tellement... nous soutenaient tellement. Ouais. Enfin, c'était vraiment top. Et là, je me dis « Mais en fait, j'ai même pas le temps... » J'ai même pas le temps de réaliser que je leur dis au revoir.
C'est le truc, ouais, horrible. Bien sûr.
La majorité de mes élèves a passé la journée à pleurer parce qu'au fur et à mesure, ils réalisaient, en fait.
Oh, c'est trop triste.
C'est-à-dire qu'il y en a qui ont réalisé dès le début. Et en fait, il y en a, c'est au fur et à mesure de la journée, ils me regrettaient. Mais attends, c'est notre dernier jour, là, avec toi ? Oui, mais tu reviens pas l'année prochaine ? Eh non, ça, tu le savais déjà. Mais... Et donc, c'était vraiment très, très compliqué. Pareil, pour dire au revoir aux copains des Seychelles, on se voit à l'aéroport parce qu'on ne sait pas à quel moment d'autre vous voir. Moi, j'ai laissé à 2 amis une valise où il y avait des choses que je voulais absolument récupérer, mais je ne pouvais pas la prendre. Donc, je savais qu'ils allaient revenir en France dans l'année suivante. Donc, je leur laisse une valise et on est à l'aéroport. Donc, dans le vol, on est une quinzaine. On n'est pas...
Ah oui, d'accord.
Enfin, ils n'avaient pas beaucoup de place non plus. Et pendant qu'on attend, on nous dit 2 choses. On nous dit les règles par rapport au Covid changent à Dubaï à minuit. Donc, il faut absolument qu'on décolle avant minuit parce que sinon, on ne pourra pas atterrir là-bas.
Et c'était quoi les règles qui changeaient ?
C'est par rapport à ce qu'on devait fournir comme preuve, les tests, etc. Parce que nous, on n'a pas fait de tests. Hein. Enfin, on n'avait pas de masque. C'est une copine qui, en 24 ans, nous a fait des masques en tissu. Enfin... Après, c'est là où on voit aussi la solidarité quand même. C'est dans ces moments-là où on voit vraiment la solidarité entre nous. Et donc, et après, on nous dit, parce qu'on avait tous un sac à dos, en fait, on avait dit sac à dos. Et là, les hôtesses nous regardent et nous disent, mais en fait, c'était avant de faire le check-in. Non, par contre, c'est sac à main ou rien. Ce qui est totalement idiot, puisqu'au final, on a pris les tote bags, là, les sacs de plage, etc. Et on a tout transféré et ça passait, en fait. Donc, c'est la même quantité, mais c'est juste que c'est pas un sac à dos. Mais bon, on passe et tout. Et donc, on se dépêche. On nous fait limite courir sur le tarmac parce qu'aux Seychelles, il n'y a que le tarmac. Enfin, y a pas de...
Ouais, t'as pas de terminal pour embarquer.
Non. C'est maximum 2 avions à chaque fois. Quand on arrive, on se dit, il faut pas qu'il se loupe parce que sinon, on est dans l'eau. Mais donc, on nous fait nous dépêcher. On monte dans l'avion et tout, et on se dit ok, enfin. Et là, on commence à reculer, et là, on voit qu'on avance à nouveau. Et on se dit qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible. Et là, on voit une personne séchelloise monter dans l'avion, un thermomètre à la main. En fait, ils avaient oublié de nous prendre la température, ce qui était obligatoire pour aller à Dubaï. Donc, ils ont pris la première personne qui bossait dans l'aéroport avec son passeport, ils lui ont filé un thermomètre pour prendre. Et elle a décollé avec nous, elle est allée à Dubaï avec nous. on s'est dit ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Et on arrive à Dubaï, et c'est là, alors j'ai parlé pour moi, mais je pense que pour les autres, c'était pareil, où on se rend compte de ce qui se passe dans le monde. Parce qu'on était quand même très isolés aux Seychelles, dans une bulle. Une fois que le confinement est passé, on vivait normalement, on prenait le bus, on n'avait pas de masque, enfin, il n'y avait rien, quoi. Et là, on arrive, ils ont combinaison totale anti-virale, j'imagine. On nous prend la température 46 fois, on nous sépare en 2 groupes. Enfin, vraiment... Ok, c'est réel, il se passe vraiment quelque chose. Donc on prend ensuite et l'aéroport de Dubaï, moi j'étais jamais allée, mais toutes les personnes qui étaient passées par là m'avaient dit mais c'est un énorme aéroport, ça fourmille vide.
Bah ouais, du coup.
Mais vide.
Ouais.
Donc on embarque, et alors évidemment moi j'habite pas à Paris, j'habite à Toulouse, donc il me fallait ensuite une solution pour faire le Paris-Toulouse. Et donc c'était Air France, aller simple. Mais oui, donc j'arrive à Paris Charles de Gaulle et là pareil. Là, c'est là où moi je me rends compte encore plus.
C'est un aéroport que tu as vu avant, quoi.
C'est un aéroport. Je suis habituée au terminal international de Charles de Gaulle. Il y a personne. Et en fait, on arrive, c'était juste avant juillet, donc il n'y avait pas encore les « il faut prendre la température », etc. Et en fait, on arrive et c'était le principe de « t'as un passeport français, tu rentres ». Donc en fait, ils ne nous ont même pas vérifié l'intérieur de nos passeports. On était pas nombreux, on était une trentaine, je pense. Et on arrive, on montrait notre passeport comme ça, ils nous laissaient passer. C'était porte ouverte.
Regardez même pas que c'était le tien, finalement.
Non. Ouais. Pas de prise de température, rien. Mais vide. Moi, c'est quelque chose qui m'a choquée,
c'est
parce que je suis tellement habituée à avoir cet aéroport plein. Et donc, voilà, je prends l'avion, pour Toulouse. Du coup, j'ai testé le lounge de la première classe dans le terminal. Et c'était assez drôle parce que les deux vols avant, c'était des vols dits de rapatriement, entre guillemets. Donc, il n'y avait pas de nourriture, etc. Et là, j'arrive plein de nourriture, des petits fours. Sachant que moi, ce qui me manquait aux Seychelles, c'était la nourriture. Il y a très peu de diversité aux Seychelles au niveau de la nourriture. Donc là, j'arrivais, c'était le paradis pour moi. Et je me suis dit, mais j'ai pas assez de temps. J'aurais dû prendre un vol plus tard pour en profiter. Et ouais, j'arrive à Toulouse et mes parents me récupèrent et c'est un autre monde, quoi. C'est directement dès le lendemain à l'ouverture du labo, je vais me faire tester parce que mes parents, ils ont 70 ans et plus, donc forcément un risque.
Et puis tu viens de traverser la moitié de la planète.
Exactement.
En pleine pandémie, quoi. J'imagine
en pleine pandémie,
que...
dont la première fois c'était un masque. À chaque fois c'était masque en tissu. Donc maintenant on sait que c'est pas forcément les plus. C'était mieux que rien, sincèrement. C'est mieux que rien. Mais bon, donc...
Et puis, un masque en tissu pour traverser la planète, j'imagine qu'à un moment, le truc, je ne sais pas s'il est encore super efficace.
C'est
au bout de 8 heures de voyage, quoi.
C'est
maintenant,
même plus que ça.
Quand c'était à France, ils nous disaient de le changer à la moitié du vol et tout. Et alors, tu m'as dit que tu avais une offre déjà pour le Colorado à ce moment-là.
Oui.
Parce que donc, toi, pendant ta dernière année, tu sais que c'est ta dernière année aux Seychelles.
Exactement.
Tu dis, OK, bon, vous êtes gentils, les gars. Je m'amuse bien, mais moi, l'immersion, c'est toujours le truc... c'est ça que je cherche, quoi.
Totalement.
Et alors, comment est-ce que tu tombes sur l'offre au Colorado?
Alors, en fait, je cherchais sur un signal étranger. Et en fait, j'avais fait une liste d'endroits. Alors, je savais que le Canada, parce que j'avais été en relation avec les ressources humaines du département d'éducation de Colombie-Britannique, m'avait dit, pour l'instant, sans le CRPE, l'immigration,
CRPE,
ils voudront pas.
C'est
le concours de professeur des écoles.
D'accord.
Ils voudront pas. Donc, je me suis dit, je vais me concentrer sur les États-Unis, puisque je sais que c'est quelque chose qu'on peut compenser aux États-Unis. Et donc, j'avais fait un peu une liste d'endroits où je voulais bien aller, d'États où je voulais bien aller.
D'accord.
Aux États-Unis. Après quand même avoir vadrouillé, j'avais une petite idée de là où je voulais bien aller, là où j'aimais un peu moins. Et donc, j'ai envoyé à tous les lycées français ou écoles...
qu'ils aient des offres ou qu'ils n'en aient pas.
J'ai privilégié quand même là où il y avait des offres. Je regardais toujours sur les sites français des États-Unis, etc. Et j'ai eu d'autres entretiens qu'au Colorado. J'ai passé des entretiens. Ce qui était très drôle, parce que tous mes entretiens, donc c'est dans ma chambre aux Seychelles et j'avais pas de bureau. Donc c'était sur mon étendoir, mon ordi était posé sur l'étendoir, système D. Mes colocs, j'ai une de mes colocs qui faisait aussi pas mal d'entretiens pour partir à l'étranger, en tant que prof aussi. Donc on était là, là, moi j'ai 7 entretiens, donc s'il vous plaît, faites pas de bruit, etc.
Prenez pas tout le wifi.
Voilà, aussi. Et en fait, je vois sur, je crois que c'était les Français des États-Unis. Une personne qui poste...
Sur le groupe Facebook,
sur le groupe Facebook. Une personne qui poste une annonce en disant « C'est pas mon école, mais je suis aussi au Colorado, sur Denver, et il y a cette offre, si vous voulez, envoyez-moi un message. » Et donc, c'était l'offre pour l'école à Fort Collins.
D'accord.
Qui était récente, elle a ouvert en été 2019.
Ah oui, d'accord, donc juste avant le Covid.
Voilà. Donc, qui n'était pas connue, c'est pour ça que je ne l'avais pas forcément trouvée. Qui n'est pas un lycée français ou une grosse école française. Donc je me dis, finalement, c'est exactement ce que je veux. C'est l'immersion en local avec des élèves vraiment locaux parce que je me dis, j'imagine pas qu'il y ait une énorme communauté française ou francophone à Fort Collins. Enfin, j'ai dû chercher quand même où était Fort Collins avant. Mais... et je me dis, pourquoi pas. Et donc, en fait, j'ai passé ces entretiens et ça s'est très bien passé. Donc, à la fin, j'étais entre deux à la fin. J'étais entre une école du même style, mais beaucoup plus grosse à Washington, D.C. et cette école de Fort Collins au Colorado. Et en fait, je me suis dit, je sais que la ville, parce que Washington, D.C., quand même, c'est une grosse ville, je vais m'y plaire quelques années, mais peut-être pas sur le long terme. Et je me souviens de mes voyages où j'étais passée par le Colorado pendant mes road trips, etc. Je me dis quand même ça. Puis en parlant avec mes amis du Minnesota, je me dis, mais tu sais, ça ressemble beaucoup au Minnesota. Et toi, t'aimes bien cette mentalité-là, t'aimes bien l'hiver, t'aimes bien tout ça. Donc, c'est comme ça finalement que j'ai choisi cette école à Fort Collins. Ouais.
Sauf que à ce moment-là, on a fait des épisodes là-dessus. Il y a eu ce qu'on appelle un travel ban, c'est-à-dire que si on n'était pas américain ou résident permanent américain, bah, la frontière était fermée, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Enfin, là, on parle des États-Unis, mais dans beaucoup de pays, c'était le cas. Du coup, tu as une offre d'emploi, mais j'imagine que ton visa, il a été bloqué là.
Alors, il y avait travel ban, mais il y a aussi visa ban. C'est-à-dire que
ils ne créaient pas de visa.
Ouais.
Ah ouais.
Pour beaucoup de catégories de visa, ils ne créaient même
c'était
pas de visa.
C'était à l'arrêt complet. D'accord.
C'était à l'arrêt. Donc, on se rend compte rapidement avec mon école que je ne vais pas pouvoir y aller cette année-là, mais on veut quand même le faire.
Ils laissent l'offre. L'offre tient toujours. Quoi.
Moi, comme eux, on est en mode, bah, si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine, on va faire, etc. Okay. Donc, moi, c'est à ce moment-là que je m'inscris pour être contractuelle en France en tant que professeur des écoles. Parce qu'à ce moment-là,
sans concours.
Sans concours. Okay. Puisqu'à ce moment-là, en France, pour l'éducation nationale, je ne sais pas dans les autres domaines... du secteur public, mais les personnes à risque avaient droit à je sais plus comment ça s'appelle, mais
un droit de retrait ou un truc comme ça.
Ouais, enfin ils étaient si on leur trouvait un remplaçant, ils restaient à la maison, etc. Enfin ils étaient à risque jusqu'au moment où soit ils avaient la vaccination, soit leur médecin leur faisait un papier comme quoi ils n'étaient plus à risque. Donc il y avait un gros besoin de contractuel.
D'accord.
Et donc, moi.
Donc, les conditions d'accès étaient plus facilitées.
Voilà.
Un peu.
Et en décembre, toujours dans je reçois les nouvelles au bon moment, j'avais une super pâtisserie à côté, en bas de chez moi. Et je me suis dit, j'ai envie quand même de me faire plaisir. Je vais m'acheter une petite pâtisserie. Et je vois un numéro que je connais pas qui m'appelle. Même réflexe que pour les Seychelles. Ouais, c'est une pub. Je réponds pas. Et je me dis, OK. Et là, il me rappelle quand je suis sur le chemin retour. Oui, c'est l'inspection pour savoir si vous êtes toujours intéressé pour un poste de contractuel. On a un poste en CM2.
Non, mais...
Lundi. On est vendredi midi. Lundi.
Ah oui.
J'ai dit, OK, c'est où ? Et donc, c'était de l'autre côté de Toulouse, mais heureusement, ma mère m'avait prêté sa voiture. Je dis, OK, est-ce que je peux venir cet après-midi à l'inspection, voir l'école, etc. Pas de problème. Donc, j'y vais le vendredi après-midi et le lundi, je commence... dans cette classe de CM2, donc parfait
bien.
Pour moi. Par contre, petite classe au niveau du bâtiment, quoi, de la classe en elle-même, et 29 élèves dedans, en plein Covid, donc distance de sécurité impossible à respecter. On fait de son mieux, mais c'était très difficile. Et on m'avait dit, mais voilà, par contre, c'est des contrats, c'est de vacances à vacances, entre guillemets, jusqu'à ce qu'on sache si la personne revient ou pas.
Donc jusqu'en février, jusqu'à février.
Du coup, j'étais là début décembre, donc c'était jusqu'à Noël.
Ah oui, donc super short, OK.
Voilà, mais je savais que l'enseignante ne reviendrait pas en janvier. Mais je me suis dit, je ne vois pas qui peut aller sur ce poste, puisque tous les remplaçants de l'éducation nationale étaient pris, en fait. Donc je me dis, bon, ça va être prolongé. Effectivement, entre Noël et Nouvel An, on m'appelle en me disant, bah, vous êtes prolongé jusqu'aux vacances de février. En février, vous êtes prolongé jusqu'aux vacances de printemps. Et après, au printemps, l'enseignante avait pu... C'est quand on a commencé à pouvoir se faire vacciner. Mmh. Et donc, elle a choisi de se faire vacciner, de se faire les deux doses. Donc, son médecin lui a donné le OK pour revenir en classe. Et c'était, je crois que c'était en mai, quelque chose comme
D'accord.
ça. Et donc, moi, je me suis dit, bon, ben voilà, j'aurais fait 6 mois, c'est bon. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que quand elle a annoncé qu'elle... qu'elle revenait, tout de suite, l'inspection m'a dit « Non, mais en fait, on a besoin de vous sur une autre classe. »
Ouais, ça ne me donne pas.
où la personne n'est pas vaccinée encore et elle est une personne considérée
vulnérable,
à risque.
Ouais.
Vulnérable, exactement. Donc, est-ce que vous pouvez aller dans cette classe de maternelle ? Par contre, on sait exactement la durée, c'est 6 semaines. OK, pas de problème.
Okay. Donc, première expérience en maternelle, du coup ?
Deuxième, ouais.
D'accord.
Mais vraie première où c'est moi qui dirigeais.
D'accord.
Les autres, c'était beaucoup de stages, etc. D'accord. Mais vraie première fois où je dirige, où là, c'est le coup du Elsa. Ils l'ont appris le vendredi que j'arrivais, les parents le lundi. Parce qu'en maternelle, en France, t'accueilles les parents souvent à la porte. Ils m'ont dit, si vous saviez tout le week-end, on a entendu parler de vous. J'ai dit, ah bon ? Elle me dit, bah oui, depuis qu'on leur a annoncé que Elsa, maîtresse Elsa, venait. J'ai dit, ah d'accord. Puis moi, je porte beaucoup de robes, beaucoup de jupes. Et donc, forcément, ça fait très princesse pour des enfants de 4 ans. Donc, il y avait beaucoup de ça.
Mignon.
Mais super, super expérience. Vraiment. Et ensuite, je me dis, bon, il me reste 2 semaines quand tu reviens. Je vais être tranquille, quoi. Ils vont pas... Non, non, on a besoin de vous sur un poste pour les 2 dernières semaines. c'était en CE1.
D'accord.
CE1. Et en fait, c'était top parce que c'est les derniers moments. Donc, c'est beaucoup de jeux. Ouais. Eux, en plus, ils avaient la piscine qui était collée à l'école.
Trop bien.
Donc, on est allé à la piscine 3 ou 4 fois, je crois, en séance piscine. Enfin, c'était super pour finir l'année. Vraiment top. Mais oui, donc finalement, plus de temps que prévu en tant que contractuel.
Ouais.
Mais par contre, mon visa n'est toujours pas débloqué.
Donc là, t'es quoi? T'es en...
2021.
Été 2021.
Et en fait, il y a toujours ce visa bank.
Oui, parce qu'ils ont rouvert en quoi, novembre 2021?
Ouais. Octobre-novembre, oui. Ouais. Donc moi, entre-temps, cette année-là, j'ai passé le concours.
Ouais. Ouais, tu te dis, je vais rassurer mes arrières.
Bah oui, mais... Et puis, c'est plus pour dire, parce que évidemment, tout le monde, depuis des années, me dit, mais il faut que tu le passes, ce concours. Il faut que tu le passes, etc. Et je pense qu'il y avait un mélange de... Je suis toujours pas sûre pour l'éducation nationale. Et la dernière fois que j'ai passé un concours, c'était médecine. Mm-hmm. C'est pas bien passé. J'aime pas trop ce système de concours, etc.
C'est particulier. Hein.
C'est très particulier. Donc, je révise pour les écrits. Donc, c'était maths et français. Mais pas plus que ça. Mm-hmm. Et finalement, ça passe.
D'accord.
Ça passe bien même.
Ouais.
Et là, je me dis, OK, bah, faut se préparer pour les oraux.
Ouais.
Et c'était à la période où j'étais donc avec les moyennes sections.
Mmh.
Et donc, pendant leur temps calme sieste, moi, je révisais en fait mes oraux. Je passe mes oraux, j'obtiens mon concours, j'obtiens mon affectation pour mon année de stage. Donc, je vais dans l'école, etc. Mais j'ai toujours en tête, mais je sens que je ne vais pas la faire cette année de stage.
Ouais.
Je ne sais pas encore pourquoi.
Et Fort Collins, pendant ce moment-là, ils t'attendent encore?
Ah oui,
parce que du coup, tu as une deuxième rentrée qui arrive.
Et oui, mais de toute façon, ils m'attendent parce qu'il y a 2 raisons. Ils ne peuvent pas avoir quelqu'un d'autre
À moins que ce soit quelqu'un qui soit déjà sur place.
Qui soit sur place et qui ait le droit de travailler, qui soit francophone et qui soit prof.
Tu fais beaucoup de critères.
C'est, c'est quand même difficile. Donc, ils m'attendent et tout. Et je me dis, non mais quand même. Et donc, on s'échange beaucoup de mails. Eux, ils échangent avec l'ambassade de France aux États-Unis, beaucoup aussi.
Mm-hmm.
Parce qu'en fait, les États-Unis ont autorisé donc, certains visas pour les personnes travailleurs essentiels.
Mm-hmm.
Et donc, ils ont autorisé l'ambassade de France aux États-Unis de leur donner une liste de profs, donc les noms des profs qu'ils voulaient faire venir.
Mm-hmm.
Donc, l'objectif, c'était de me mettre sur cette liste, en fait. Enfin... Et j'y suis toujours pas, je suis toujours pas nouvelle du visa. J'ai un rendez-vous, je crois, ben justement pour novembre 2021. Mais je me dis, normalement, les J1, la coupure, je crois que c'est octobre. Je sais pas exactement quand en octobre, mais il y a une coupure à partir duquel un J1 prof ne peut plus arriver en fait aux États-Unis.
D'accord.
Parce que tu vas pas faire arriver quelqu'un en milieu d'année au niveau des visas. Et oui, donc finalement, je me dis, mais il me le faut ce visa.
Mmh. Mmh.
Donc on échange énormément avec l'école, eux échangent énormément avec l'ambassade. Et comme je suis toujours en contact avec l'école d'immersion au Minnesota, la responsable des stagiaires me dit « Elsa, on vient d'obtenir l'autorisation pour nos stagiaires.
Mmh. »
Et là, je dis à ma responsable à Fort Collins, je fais « Attends, s'ils ont l'autorisation pour des stagiaires,
C'est quand même bizarre.
Il faut qu'on insiste.
Mmh. »
Et je pars quand même, je prévois pas trop de vacances cet été-là, mais je me dis « Bon, je suis quand même en France. Je vais essayer de voir les quelques amis que j'ai en France. Ouais. » La plupart de mes amis, finalement, sont un peu partout dans le monde. Mmh. Je me dis, je vais en profiter. Et donc, je prévois 4 jours de vacances en août avec des copines, thalasso, relaxation dans le sud de la France. Et je dis à une de mes meilleures amies qui était là, je fais, je suis sûre que je vais avoir la réponse quand je suis là. je te préviens, si on me dit qu'il faut que je sois demain à Paris, je te lâche, mais vraiment. Elle me dit, t'inquiète pas, Elsa. On est au bord de la piscine. Je reçois un mail. Après discussion entre... les responsables des ambassades, etc. Vous avez un rendez-vous mardi, donc c'était un vendredi, mardi à Paris.
Et donc, tu as le temps de finir tes vacances, un peu.
J'ai le temps de finir mes vacances, mais on est en plein mois d'août en France quand ça reprend le tourisme. Impossible de trouver un billet de train. Impossible.
Ouais.
Je trouve un billet d'avion. Pour le retour, ça m'était complètement égal. Mais je peux rester une semaine, je m'en fiche. Mais il me faut un aller.
Ouais, faut qu'il se bat, quoi.
Pour le lundi, parce que je ne veux pas stresser d'arriver le mardi matin. Donc, je trouve un billet d'avion pour le lundi. Donc, j'appelle, j'ai des amis à mes parents qui habitent à Paris encore, parce que tous mes amis qui habitaient à Paris, en fait, ils sont repartis chez leurs parents et dans leur famille pendant Covid pour être en dehors de la ville. Donc, il n'y avait plus personne là-bas. Donc, l'ami de mes parents dit, il n'y a pas de problème, viens, pas de souci. Mais gros stress quand même, parce que je me dis, mais est-ce qu'ils disent juste, oui, bah, c'est bon, tu peux y aller, parce qu'ils en ont marre qu'on les, on les harcèle de mails et de coups de téléphone. Et donc, j'y vais. Encore plus bizarre que mes 2 autres rendez-vous à l'ambassade parce que ben, Covid, etc. Et en fait, avec Covid, avant, c'était les vitres où il y avait les petits trous pour entendre parler entre la personne de l'ambassade et nous, en fait. Mais avec Covid, il n'y a plus ça. C'est complètement vitré et haut-parleur. Donc, on
tout entend.
Et donc, j'entends les refus avant moi. J'entends, je me souviens d'une fille qui allait pour jeune fille au père, pour un pédiatre, enfin une famille où le papa était pédiatre. Et en fait, ils ne l'ont pas accepté parce qu'elle n'était pas capable de dire et de prouver s'il était en hôpital clinique ou indépendant. Et avec que s'il était en hôpital où elle était considérée comme travailleur essentiel. Donc, ils lui ont dit, vous avez 48 heures pour nous prouver. Parce qu'évidemment, à l'ambassade des États-Unis, on n'a pas notre téléphone sur nous. Donc, elle ne pouvait pas les appeler sur le moment, etc. Donc, ils lui ont donné 48 heures. Et par contre, après, les deux personnes devant moi, je me suis dit, mais s'il les laisse passer, il faut qu'ils me laissent passer moi. Il y en a un, il était technicien sur un show à Broadway. Donc, il a dit, il n'y a que moi qui sais faire cette technique de blablabla. Et donc, ils ont dit, OK, c'est bon. Et l'autre était cuistot en Floride. Ils ont dit, ah, c'est bon, resto français, pas de problème, allez-y. Et là, je me dis, mais quand... Enfin, je suis prof, quoi, de français. Et donc, j'arrive devant cette vitre de plexiglas. Et donc, je lui donne mes papiers, etc. Et elle me regarde, elle fait, vous êtes sur la liste ? Je dis, j'imagine. Et là, elle prend mon passeport et tous mes papiers. Et d'habitude, ils ne prennent pas tout ça avec eux, en fait. Enfin, ils ne prennent que les papiers. Et elle met du temps. Enfin, pour moi, ça m'a paru une éternité.
Elle fait visa, quoi.
Et en fait, elle revient et elle ne me dit rien. Et elle met juste un tampon sur mon papier de visa. Mais je ne sais pas si c'est refusé, accepté. Et elle ne me dit rien, elle ne me dit rien, elle ne me dit rien. Et elle sort d'autres papiers, elle me sort plein de papiers. Je me dis, mais attends, s'il te donne plein de papiers, c'est soit que c'est très bon, soit que c'est pas bon du tout. Et qu'il t'explique dans tes papiers pourquoi. Je la regarde, je fais, excusez-moi, elle me dit, oui. C'est bon ou pas? Oui, oui, c'est bon. Et donc après, elle me dit, voilà, comme il y a toujours le travel ban, vous avez ce papier, cette exemption
pour pouvoir passer la douane.
Par contre, ça veut dire que vous avez 30 jours pour partir.
Ah vache, d'accord.
C'est valide que 30 jours.
D'accord.
Ok, de toute façon, j'ai prévu de partir dans 10, donc tout va bien. Et donc, je sors. Donc forcément, je laisse mon passeport, mais je sors avec le papier disant que c'est tamponné, comme c'est bon. Ouais. Et je m'assois dans ce petit parc qui est en face de l'ambassade.
C'est
et
fameux.
Je décompresse complètement sur le banc. Et j'appelle mon père, je fais, je crois que c'est bon. Il me fait, mais comment ça, tu crois que c'est bon? J'ai le papier qui dit que j'ai l'autorisation. Il me dit, mais ça veut dire que c'est bon, Elsa. Il me dit, tu parles anglais quand même, après toutes ces années. Je dis, mais oui, mais on ne sait jamais. Et tout. Il me dit, mais non, arrête de psychoter comme ça. Donc forcément, soulagement, mais pas total, parce que je n'ai pas encore passé la frontière. Quoi.
Ouais, puis il faut être à 30 jours, il faut que tu trouves le billet d'avion, il faut que tu ailles.
Donc à ce moment-là, il y a encore les directs Paris-Denver avec Air France. Donc moi, je n'hésite pas, pendant 1000 ans, je prends celui-là. On était 90 dans l'avion pour un avion de plus de 300 places. Et j'étais la seule avec une autre personne, je crois, qui était ni américaine ni carte verte. Donc forcément, alors, pour la petite anecdote, je rentre et ils ont tous vu ça. Ils ont vu que j'arrivais de Toulouse, les stewards et les hôtesses de l'air. Donc ils sont venus, ils m'ont élu passagère du vol à m'amener le champagne, les petits fours, etc.
Pourquoi?
Apparemment, ils font ça de temps en temps et ils m'ont dit, on a vu que vous étiez la seule qui était française, etc.
Travailleur essentiel, quoi, du coup.
Voilà. Et en fait, ils disaient, on a aussi vu que vous venez de Toulouse et l'un d'entre eux est fan de rugby, avait vu le match du Stade Toulousain la veille, donc il est venu débriefer avec moi sur le match du Stade. Et donc après, on arrive à Denver et donc forcément, il y a la séparation de ceux qui sont carte verte, passeport d'un côté et les autres de l'autre. On est deux, dont un qui était en fait avec sa femme qui était américaine.
D'accord.
Et donc là, forcément, on passe en second interview. Donc, on est mis sur le côté.
Tu vas dans la salle avec les miroirs sans teint.
Voilà.
Ça m'est arrivé, oui.
Alors, moi, ils ne m'ont pas mis dans la petite salle. Ils m'ont juste mis à l'accueil de cette second interview. Et ils m'appellent très rapidement. Ils me disent, vous faites quoi ici? Donc, je explique, je suis prof, nanana. Ils me disent, ok, d'accord. Ils me disent, par contre, ce n'est pas votre faute et ce n'est pas notre faute. Mais à chaque fois que vous allez arriver maintenant aux États-Unis, vous serez en second interview. Donc prévoyez soit d'arriver directement à Denver depuis l'étranger, soit prévoyez au moins 4 heures si vous avez une correspondance. Moi je suis en mode ok, de toute façon
je suis arrivée quoi.
Je suis arrivée, laissez-moi sortir. Ouais. Donc voilà, donc j'ai mes futurs collègues qui viennent me récupérer
trop
de l'école.
Ouais.
Et au début, ça s'est fait tellement précipitamment que j'ai pas de logement. Mm-hmm. Donc j'ai la directrice de l'école qui m'accueille, qui me dit il y a pas de problème.
Ça va.
Donc j'ai reçu énormément d'aide de la part de tout le staff, à m'amener voir des apparts, à m'amener acheter une voiture, à m'amener à la banque. Mm-hmm. Vraiment un gros soutien là-dessus. Et donc j'ai commencé donc en classe donc l'année dernière, du coup il y a 2 ans, j'avais le matin la classe de CE1, CE2 et l'après-midi la classe de CP.
D'accord, donc en immersion.
En immersion, c'est ce que j'avais voulu. Donc j'avais réussi mon objectif.
Et alors, heureuse ?
Ah oui, totalement, ouais. Totalement. Bien sûr, il y a des moments où c'est beaucoup de travail, énormément de travail. C'est un nouveau programme en plus, donc on a tout à développer. Il y a des moments où on se dit, mais je suis loin quand même de tout le monde. Mm-hmm. Moi, j'ai eu des problèmes de santé aussi. je te dis que les nouvelles... l'été dernier, je rentre en France et je me plains. Ça fait 10 ans que je me plains auprès de mon médecin. Je suis tout le temps fatiguée. Mais j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à perdre de poids. Il y a quelque chose qui me dérange. Il me dit, mais toutes tes analyses sanguines depuis 10 ans sont bonnes. Je fais, mais ma mère avait des problèmes de thyroïde. Elle avait des nodules, etc. Et il me dit, bon, mais on va vérifier. T'es là pour un mois, on a largement le temps de faire une échographie. Donc on vérifie. On trouve un nodule à l'échographie, assez gros. Donc il me fait faire une ponction. Il me dit, bon, après, t'es jeune. Alors, ce qui est rigolo, c'est que... C'est un radiologue qui fait la ponction. Et c'est le même qui avait fait la ponction à ma mère il y a 30 ans. Et qui est considéré comme un des meilleurs radiologues pour ça dans la région toulousaine. Et il me dit, non, mais votre mère, c'était que des nodules bénins. Vous êtes jeune, il n'y a pas de problème et tout machin. Donc je demande, je repousse mon départ. Parce que là, on commençait à arriver à un moment où je repartais aux États-Unis. Et je repartais avec mes parents parce que je leur avais prévu une semaine au Colorado, 10 jours à visiter Nouveau-Mexique, Colorado. Enfin, gros truc, sympa. Quoi. Et je dis, est-ce que je repousse ? Il me dit, mais non, vous inquiétez pas. Puis on est dans l'avion retour avec mes parents. Et puis, maintenant, dans les avions, il y a le Wi-Fi. Mon médecin a un iPhone, j'ai un iPhone, donc il y a iMessage. Et je reçois en plein vol un message de mon médecin, ne pars pas, il y a risque de cancer, blablabla, on te le fait
Par texto, mes gens, ils sont timbrés pour des trucs comme ça. Non, mais sûr, tu sais pas dans quel contexte tu le lis et tout, tu peux être toute seule.
Ouais. Je lui ai dit après, il me dit, ouais, mais j'essaie. Mais en fait, les appels ne passaient pas.
Bah oui, c'est interdit dans l'avion.
Donc, il me dit, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Et je dis, ouais, mais si ça passe pas, c'est que je suis dans l'avion. Donc, je regarde mes parents, je fais, bon, vous allez lire un texto, vous paniquez pas. Alors, 2 réactions totalement opposées, comme pour quand j'ai trouvé mon stage. Ma mère, on fait demi-tour tout de suite. Maman, on est dans un avion, on va déjà atterrir, on réfléchit.
Ouais, vous étiez en vol déjà.
Ah oui, on était, je crois qu'on était même au-dessus du Canada, vraiment. Et je dis, on va se poser. Et mon père, il dit, bon. Mon père était prof de maths, très logique comme moi. Il me dit, bon, le diagnostic, c'était 10 à 30% de chances de cancer. Il me dit, bon, mais si c'est 10 à 30% de chances de cancer, c'est 70 à 90% de chances de non-cancer. Je dis, ouais, je suis d'accord avec toi. Je dis, maintenant, je vais appeler mon médecin quand je rentre et je vais voir avec lui de vive voix. Alors, autant il n'était pas très délicat sur le téléphone, enfin, envoyé par texto, autant mon médecin est super, il était en vacances en train de faire du golf. Il me dit, non, mais tu m'appelles quand tu veux, j'arrête ma partie, on discute. Donc j'appelle, il me dit, écoute, moi, j'aimerais bien que tu vois un médecin généraliste aux États-Unis pour avoir leur avis. Et il me dit, après, je te mets en contact avec une endocrino, donc ceux qui sont spécialistes des hormones et tout, en France, puisqu'elle fait les téléconsultations. Donc tu la vois et on prend la décision. On dit, mais profite de tes jours avec tes parents, n'annule pas votre petit périple. Donc... Effectivement, heureusement, j'ai une de mes collègues de mon école qui a son mari qui est médecin généraliste. Et du coup, dès que je suis arrivée, je suis allée voir elle et ma directrice. J'ai dit à ma directrice, écoute, peut-être que je vais repartir dans 2 jours. Je te le dis, voilà ce qui se passe, juste pour que tu sois prête. Je ne sais pas encore comment gérer ça, mais voilà, tu as l'information. Et à mon autre collègue, je lui ai dit, est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec ton mari? Parce que je n'ai pas de médecin. Enfin, je n'avais pas été malade... l'année dernière, donc...
T'as pas eu besoin, quoi.
J'ai eu besoin de médecin. Elle me dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc, je le vois. Il me dit, clairement, ici, c'est pareil, on te le fera enlever. J'avais un seul nodule qui était gros, mais sur un seul côté de la thyroïde. Il me dit, on te fera enlever. Par contre, ici, c'est entre 7 000 et 15 000 $.
Mais t'avais une assurance santé à l'époque.
Ouais, sauf que moi, j'ai une assurance expat pour avoir le visagien. et qu'en fait, ils considèrent que d'une année à l'autre, c'est pas un renouvellement de contrat, c'est un nouveau contrat, et qui n'assure pas les choses qui sont découvertes avant ton année de contrat. Donc moi, j'entamais ma deuxième année de contrat, et donc ils m'ont dit, bah non, on rembourse pas. Donc j'ai dit, bon, bah ok.
Tu vas te faire opérer en France.
Donc je suis partie me faire opérer en France. Alors, que ce soit l'endocrino, le médecin américain ou mon médecin généraliste en France m'ont dit, parce que moi, évidemment, je disais, je peux attendre l'été prochain. C'est bien l'été prochain, j'ai prévu de rentrer déjà. On me dit non, c'est soit tu le fais en décembre en France, soit tu le fais aux États-Unis.
Ouais.
Je dis bon, ben, je rentre en France. Donc à Noël, je suis rentrée et du coup, je me suis fait opérer en France et je suis revenue. Mais du coup, c'est vrai que, ouais, c'est okay. Ça, la petite cicatrice.
Donc c'est récent du coup.
Ouais, c'était ce
décembre 2022.
Ouais,
d'accord.
C'est ça, décembre 2022.
Ça fait même pas un an.
Même pas un an, oui. Mais et finalement, après analyse, c'était bénin. C'était cellules cancéreuses, mais bénies. Donc, donc tout va bien.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est cette réflexion de, ben, je me fais opérer où ? Et j'ai demandé l'avis quand même donc à ces médecins français, américains. J'ai demandé à mes collègues aussi. Et même mes collègues américains, hein, ils m'ont dit, mais même si tu avais une assurance ici, en fait, tu aurais quand même... Parce que finalement, moi, l'opération en France m'a coûté 1000 euros. Avec mon billet d'avion, voilà, 2000 euros, ils m'ont dit, mais t'auras même plus que ça à payer de ta poche, quoi qu'il arrive. Parce que, ben, j'ai pas pour l'instant, enfin, ça fait pas assez longtemps que je suis ici avec et j'ai pas d'assurance américaine, etc. Donc, ils me disaient, bon, ben, rentre en France. Ouais. Quand ils ont vu mes menus de l'hôpital, que j'ai renvoyé les photos, ils m'ont dit, mais en fait, t'es au resto, quoi, quand t'es à l'hôpital en France.
Sérieux, moi, je trouve que c'est vachement meilleur aux hôpitaux américains.
Alors, moi, j'ai pas fait les hôpitaux américains, mais je sais que moi, en tout cas, là où j'étais à Toulouse. Ah oui, d'accord. C'était...
On n'a pas eu la même expérience.
Alors moi, je me suis opérée deux fois en France.
Moi, je me souviens d'œuf dur à la sauce tomate à Paris, quoi, si tu veux, à l'hôpital. Et
Moi, j'avais poisson avec petite sauce aux légumes, ébli, j'avais du pâté de campagne en entrée.
Ouais, donc en fait, c'était même royal.
Ah mais oui. Donc moi, j'ai renvoyé ça, ils m'ont tous dit, non mais en fait, on vient tous en France se faire opérer, c'est comme ça. Ah oui, petit flan maison qui était fait sur place.
Trop bien.
Donc ça a été aussi un peu compliqué. En plus, j'ai changé de niveau cette année. J'avais quatre niveaux. J'avais les CE1, CE2, les CM1, CM2. Donc, je retourne avec les CM2 où je m'éclatais aussi. Mais c'était des nouvelles choses à faire. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de choses cette année. Mais oui, toujours autant enthousiaste et heureuse finalement d'avoir... Et je pense aussi le fait de se dire, j'y suis arrivée.
Ouais.
J'ai réussi, ça fait 8 ans que j'essaye de faire ça. Je me suis battue, j'ai pas abandonné, j'ai réussi. Donc,
t'es restée très positive aussi. Hein.
J'ai essayé, oui. C'est pas forcément
C'est tout normal, le temps facile. Pas... Bien sûr.
C'est pas une ligne droite, mais en fait, je me suis dit, en fait, depuis toute petite, je dis que je suis bilingue, que je vais habiter à l'étranger. Maintenant, j'ai trouvé le fait que...
30 ans, check.
Voilà, exactement. Mais même, c'est des petites anecdotes, mais pour ma voiture, mon troisième road trip, du coup, après la fac, on a fait pareil un road trip aux États-Unis et on avait comme voiture une Equinox, enfin une Chevrolet Equinox. Quand je suis arrivée, je dis, je veux cette voiture si un jour j'habite aux États-Unis. Et je cherche des voitures et c'était difficile pendant le Covid de trouver une voiture. Ouais. C'était très difficile, très cher, et beaucoup plus cher
aux
que
US,
ce que ça...
en France aussi d'ailleurs. Enfin, la fabrication.
Exactement. Et donc, en fait, la seule voiture qui était dans mon budget, qui allait, etc., c'était une Chevrolet Equinox.
Très bien.
Je m'en vais. Check aussi ça. Ouais,
The Bookle is Bookled.
C'est ça.
Trop cool. Est-ce qu'il y a un petit truc que tu voudrais dire à Elsa d'il y a 8 ans ? Ou Elsa, la petite Elsa qui se posait des questions et qui avait envie d'être bilingue justement et d'étudier à l'étranger ?
De jamais abandonner. Ouais. C'est vraiment ça. C'est peut-être commencer l'anglais plus tôt.
Ouais.
Parce que je le vois moi avec mes élèves, c'est tellement plus facile quand on commence à apprendre une deuxième langue jeune en fait. Mais ne jamais abandonner, et qu'effectivement, il y aura des obstacles et qu'il y aura toujours une next opportunity.
Et du coup, là, ton futur, tu le vois à Fort Collins. Enfin, je veux dire, t'es bien, t'es heureuse, t'es bien.
Je suis bien, je suis heureuse, mais je suis sous visa.
Ouais.
Et donc, les visas de J1 Prof, c'est 3 ans.
D'accord, donc t'as encore une année.
J'ai encore une année. Possibilité d'étendre de 2 ans, mais c'est pas moi, c'est pas de mon côté, en fait. C'est l'école qui doit le demander.
D'accord.
Mais si possible, oui. Ouais. Pour l'instant, moi, je me sens...
T'es heureuse, t'es ouais. bien, t'es chez toi.
C'est ça, je suis chez moi. Et c'est exactement ça, c'est je suis chez moi. Mmh. C'est-à-dire que quand je suis ici, ou même, tu vois, même quand je suis au Minnesota, je dis je suis chez moi. Mmh. Et donc ça, c'est... Je pense que c'est important de trouver un endroit où on se sente bien, mmh. et que ça soit au niveau personnel et professionnel.
Ouais.
Maintenant, il faut que j'apprenne à avoir un meilleur équilibre. Ouais. Parce que j'aime tellement mon métier que je passe des heures à ça, mmh. en dehors de l'école. Donc, c'est mon objectif cette ouais. année, trouver un meilleur équilibre
ouais.
entre vie pro
c'est
et
pas toujours facile. Personne.
Non, pas facile, surtout quand on aime son métier, je trouve.
Ouais. Ah bah c'est clair.
Ouais. C'est vraiment... Puis la preuve, hein, j'habite à 3 minutes de mon école. Donc...
c'est même dangereux.
c'est très dangereux. Ouais. Mais ouais, je pense que autant je suis bien en France quand je rentre en été, autant je me sens mieux ici à vivre. Mm-hmm. Donc je resterai...
Tant que ce sera le cas, quoi.
Tant que ça sera possible. Ouais. Et ça dépend pas forcément de moi, ouais. effectivement.
Trop cool. Eh ben merci beaucoup, Elsa.
Mais merci à toi.
Et voilà, cette fois-ci, c'est terminé. J'adresse un immense merci à Elsa Martin pour ce très chouette moment passé ensemble. Et puis merci d'être venue jusqu'à moi, parce que ça lui a fait quand même pas mal de route pour cet enregistrement. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans la vraie vie, dans votre groupe WhatsApp d'amis ou de collègues, sur le Slack de votre travail ou sur les réseaux sociaux. Chacun de ces partages compte énormément pour nous. Et si vous avez encore une petite seconde de disponible, n'hésitez pas à commenter cet épisode, que ce soit sur les réseaux sociaux, on est surtout actifs sur Instagram, ou sur Spotify et Apple Podcasts, on lit vos petits mots chaque semaine avec énormément d'émotion, ça nous fait tellement plaisir. Alors n'arrêtez pas. Chose promise, chose due, je vous propose de découvrir un petit extrait pour savoir de quoi et avec qui nous allons parler la semaine prochaine.
Le mois de juin est arrivé et j'ai décidé de rentrer à Paris, de reprendre rendez-vous avec Catherine Hell, donc qui était ma directrice de l'info, et de lui dire que j'avais décidé de rester. Je voulais prévenir TF1 à l'avance, quoi, pour pas...
proprement.
On avait décidé que je revenais en septembre, donc en juin, je suis allée la voir. Et elle a été très heureuse pour moi, en fait. Je lui ai dit, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai décidé de rester en Israël et de pas rentrer, et de laisser une chance, en fait, à cette histoire, bien sûr, à cet amour, mais aussi à cette Jessica. Qui était en train de naître, en fait, qui laissait d'un coup de la place à une vie perso, privée, à potentielle famille. Voilà, j'avais envie de laisser de la place à cette personne-là d'exister. Et donc je suis rentrée en Israël après ce petit séjour à Paris pour annoncer que je restais. Tu fais quelque chose à côté, mais tu fais pas que ça quand même. Et là, je sens en moi cette boule qui commence à monter, quoi. Et je me rends compte, en fait, que... on n'a aucune idée de ce que c'est quoi, qu'être maman. Ce travail à plein temps qui est pour le coup H24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de pause. Et puis surtout quand ils sont encore petits, il n'y a pas de pause même la nuit. Je suis fatiguée, hein, on va pas se mentir, c'est un épuisement total. Mais je suis très heureuse et ça m'épanouit. Et c'est ce qui m'intéresse à ce moment-là. Je n'ai pas le sentiment de passer à côté d'autre chose. Mais il m'a fallu quand même un peu de temps pour accepter, pour aller au-delà du jugement que la société pouvait porter sur ma décision. Et du coup, du jugement, de l'auto-jugement, en fait, que moi, je m'infligeais à ce moment-là. Parce que je peux pas n'avoir envie de faire que ça, mais c'est quand même nul, quoi, intellectuellement. C'est vrai, c'est pas... Et puis les gens me disaient, mais tu vas péter un plomb, il faut un équilibre, il faut... Évidemment, mais il y a autant d'équilibre qu'il y a de maman, en fait. Et moi, mon équilibre à ce moment-là, c'était d'être avec mon enfant. Tu fais des enfants, tu mets des enfants au monde pour pouvoir quand même passer du temps avec eux, pour pouvoir t'en occuper. Après, il y a des mamans, et je juge absolument pas, qui trouvent leur équilibre de manière différente. Mais quand une maman décide que son équilibre passe par là, c'est quand même fou de devoir le justifier à ce point-là. Oui, aujourd'hui, la phase d'introspection, elle est aujourd'hui, rétrospectivement, parfois. J'ai bien sûr que j'ai des moments, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se dire « super, la vie d'avant était toute pourrie, maintenant j'ai une vie géniale, c'est super facile, je suis devenue maman, je suis super épanouie ». Non, ce n'est pas vrai. la vie d'avant, elle n'était pas pourrie. J'ai laissé des choses derrière. J'ai laissé une vie que je pensais construire vers une certaine direction. J'ai laissé une famille. J'ai laissé des amis. J'ai perdu des gens en cours de route parce qu'on ne peut pas être partout tout le temps, parce qu'on rate des choses. Et ça a un prix. Et il y a des moments où ça revient. Et je pense qu'il faut être... J'aime beaucoup le mot anglais. On a pas trop ça en français. « Embrace ». Embrasser, c'est pas vraiment ça, c'est accepter peut-être que le long du chemin, il y aura des moments douloureux, qu'il y aura des regrets, c'est-à-dire qu'il y aura des moments où tu vas regarder en arrière et où ça va te pincer le cœur, ça va certainement te faire pleurer, ça va certainement te faire mal au ventre. Mais moi, dans mon métier, en télé, quand on montait, il fallait choisir, puisque quand t'avais 30 minutes de rush pour monter 1 minute 30, il fallait choisir. Et on me disait, monter, c'est renoncer, choisir, c'est renoncer. Et voilà, et tu renonces à certaines choses, tu découvres d'autres choses, il n'y a pas... Je pense que tant que t'es dans la comparaison, c'est ce que j'ai appris, t'es malheureux. C'est-à-dire que si tu te dis ma vie d'aujourd'hui en permanence, ma vie d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est mieux que celle d'avant ?
Ouais.
T'es foutu en fait.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et il me tarde déjà de vous retrouver mardi prochain pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.